commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup...
Bonjour. Un livre, oui mais quel livre? Eh bien, L'Oiseau des Livres est là pour vous aider à choisir. On vous fait partager nos coups de cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de romans et d'albums sur les Indiens, parce que j'ai craqué récemment sur Les Petits Orages de Marie Chartres à l'École des Loisirs. Ce roman nous conte l'histoire de Mose. Mose qui est un adolescent qui a eu un accident de voiture il y a quelque temps. Il boite. Très vite, il va être surnommé par quelqu'un qui va devenir son ami, Tige Brisée. Aller au collège, c'est pas simple. Non seulement il boite, mais en plus, il est couvert d'acné. Et un jour où il doit faire un exposé sur les Indiens qu'il a simplement copié sur Internet, Razzo, qui est tout nouveau dans la classe, qui est au fond, qui est un Indien, un vrai, lui dit que vraiment, il n'a rien compris, que la vie des Indiens actuellement ne correspond pas du tout à ce que l'on trouve sur Internet. Au fil du temps, ils vont devenir amis. La difficulté à vivre de Tige Brisée et la difficulté de Razzo à s'intégrer dans le monde des Blancs vont les rapprocher. Et un jour, Razzo va lui proposer de l'accompagner dans sa tribu pour aller à l'anniversaire de sa sœur. Tige Brisée va avoir un petit peu de mal au départ à convaincre sa famille que malgré son handicap, il peut partir comme ça, 3 jours chez les Indiens. Heureusement, ni son père ni sa mère ne vont voir la voiture dans laquelle il part. C'est un vrai tas de boue. Elle marche, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment ils vont finir par arriver dans la tribu, parce que tout au long du trajet, c'est une galère pas possible. Il y a même une fois où elle ne veut plus avancer, elle ne fait que reculer, avec le coffre ouvert. Tige Brisée va devoir se mettre dans le coffre pour pouvoir guider la voiture. C'est quand même quelque chose. C'est cette forme d'humour qui accompagne le récit, alors qu'il est finalement super dur. Et quand ils vont arriver... dans la tribu. Ils vont d'abord aller voir la sœur de Mose. Et là, on va se rendre compte que cette sœur, elle n'est plus. C'est sur sa tombe qu'il voulait aller. Sa sœur est morte d'alcoolisme. Elle est morte, elle s'est noyée dans l'alcool. Et ce qui explique que Razzo a refusé dès le départ toute boisson alcoolisée. Parce que finalement, les Indiens souffrent énormément de l'alcoolisme, de la pauvreté, de tout ce qui fait que les tribus indiennes actuellement ont un mal fou à vivre. Et Tige Brisée, Mose, va découvrir la vie dans la vie des tribus. Il va aussi découvrir que finalement, malgré leurs difficultés de vivre, ils ont gardé leurs coutumes, leurs traditions et qu'ils sont encore capables de faire des fêtes, de profiter de la vie et de ce qui leur reste de leurs traditions. Il va rencontrer l'homme médecine qui va l'aider à se débarrasser de son acné. Et quand il retournera chez lui, non pas avec la voiture pourrie, mais parce que son père va venir le chercher, il sera un autre adolescent. Il aura appris à regarder la vie autrement. Il aura appris à accepter son handicap et à accepter aussi celui de sa mère, parce que dans cet accident qu'il a eu, sa mère s'est retrouvée, elle, en fauteuil roulant. Et il était responsable de cet accident, ce qui fait que tout était très difficile pour lui et pour sa famille. Et à partir de ce voyage, de cette amitié qui s'est nouée, il va pouvoir revivre. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que Razzo, qui est donc dans un collège de blancs, est là parce que un jour où il a été hospitalisé, ils ont découvert qu'il avait un QI particulièrement important et que les blancs se donnent bonne conscience en donnant à un Indien super doué la possibilité d'aller au collège et de vivre normalement. Donc, un roman qui nous emporte, un roman qui traite de différents sujets, les Indiens, le handicap, la difficulté de vivre. Vraiment un très, très beau roman de Marie Chartres. Et maintenant, je vais vous parler d'un roman de Sherman Alexie. Sherman Alexie, c'est un auteur que l'on aime beaucoup, qui écrit peu pour les jeunes, si ce n'est ce roman, Le premier qui pleure a perdu, beaucoup pour les adultes, et qui est lui-même d'origine indienne, de père et de mère indien. Ce qui fait que dans tous ses romans, il aborde plus ou moins la difficulté de vivre des Indiens. Donc celui-ci, Le premier qui pleure a perdu, est un petit peu autobiographique. Pour vous mettre en appétit, je vais vous lire le début du roman, qui nous donne bien le ton. Je suis née avec de l'eau sur la tête. Bon, d'accord, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, je suis née avec trop de liquide céphalo-rachidien à l'intérieur du crâne. Mais liquide céphalo-rachidien, c'est tout simplement le terme savant qu'emploient les médecins pour parler d'huile de cervelle. Et l'huile de cervelle fonctionne dans les lobes comme l'huile de moteur dans une voiture. Elle fait tourner l'ensemble rapidement et sans accroc. Mais moi, bizarre, comme je suis née avec trop d'huile dans le crâne. Elle est devenue pâteuse, vaseuse, gluante. Et tout ce qu'elle a fait, c'est embourber le mécanisme, le moteur qui me permettait de penser, de respirer et de vivre à ralenti et s'est enlisé. Mon cerveau se noyait dans l'huile. Mais cela donne à toute l'histoire un petit air rigolo et farfelu. Un peu comme si mon cerveau était une frite géante. Donc il me semble plus sérieux, plus poétique et plus juste de dire « Je suis née avec de l'eau sur la tête ». Bon d'accord, vous allez me dire que ce n'est pas très sérieux non plus comme manière d'en parler. C'est peut-être vrai que toute l'histoire est rigolote et farfelue. Mais à votre avis, est-ce que ma mère, mon père, ma grande sœur, mes cousins, mes oncles et mes tantes ont trouvé ça drôle quand les médecins ont ouvert mon petit crâne et aspiré toute cette eau en trop avec un minuscule aspirateur? Je n'avais que 6 mois et normalement j'aurais dû y rester pendant l'opération. Et même si d'une manière ou d'une autre je survivais au mini-aspi, en principe mon cerveau devait être gravement endommagé par le processus. Et moi, je devais rester un légume toute ma vie. Visiblement, j'ai survécu à l'opération. Sinon, je n'écrirais pas ceci. Mais j'ai toutes sortes de problèmes physiques qui résultent directement des dégâts dans mon cerveau. Tout d'abord, je me suis retrouvée avec 42 dents. Un être humain typique en a 32. Vu ? Moi, 42. 10 de plus que d'habitude. 10 de plus que la normale. 10 dents au-delà de l'humain. En poussant mes dents, on prit tellement de place que je pouvais à peine fermer la bouche. Je suis allée au service indien de la santé pour m'en faire arracher afin de pouvoir manger normalement et non comme un vautour baveux. Mais le service indien de la santé ne remboursait les gros travaux dentaires qu'une fois par an. Donc j'ai dû me faire arracher mes 10 dents en trop le même jour. Et en plus, notre dentiste blanc croyait que les Indiens sentaient 2 fois moins la douleur que les Blancs. Donc il nous donnait moitié moins de Novocaïne. Un beau salopard, hein ? Le service indien de la santé remboursait aussi les lunettes une fois par an et ne proposait qu'un modèle, des grosses en plastique noir, moches comme tout. Mon cerveau bousillé me rendait myope d'un œil et presbyte de l'autre. Donc mes lunettes moches étaient toutes de traviole, puisque j'avais les yeux de traviole. J'ai des migraines parce que mes yeux sont carrément ennemis, vous voyez ? Comme s'ils avaient été mariés mais ne pouvaient plus se blairer. Et j'ai commencé à porter des lunettes à 3 ans, si bien que quand je me baladais sur la réserve, j'avais l'air d'un pépé indien de 3 ans. Ah oui, et aussi j'étais maigre. Si je me mettais de profil, je disparaissais. Mais mes mains et mes pieds étaient gigantesques. En CE2, je chaussais du 46. Avec mes grands pieds et mon corps de crayon, j'avais l'air d'un L majuscule quand je marchais dans la rue. Et j'avais un crâne énorme. C'était quelque chose à voir. Ma tête était tellement grosse que les petits crânes indiens tournaient en orbite autour. Certains gamins m'appelaient orbitre et d'autres m'appelaient tout simplement globe. Les petites brutes m'attrapaient, me faisaient tourner sur moi-même et posaient le doigt sur mon crâne en disant « Je veux aller là ». Donc évidemment, j'étais tout raté à l'extérieur. Mais le pire, c'est ce qui se passait à l'intérieur. Tout d'abord, j'avais des convulsions, au moins 2 fois par semaine. Donc, je m'abîmais régulièrement le cerveau. Mais le truc, c'est que si j'avais ces attaques, c'est parce que mon cerveau était déjà abîmé. Si bien qu'à chaque crise, je rouvrais les plaies. Et oui, chaque fois que je faisais une attaque, je faisais des dégâts dans mes dégâts. Il y a 7 ans que je n'ai pas fait de crise. Mais d'après les médecins, je suis sujet à une activité convulsive. sujet à une activité convulsive. Ça roule sur la langue comme de la poésie, non ? Je bégayais et je zozotais aussi. Ou plutôt, devrais-je dire, je bégayais et je zozotais. Vous allez me dire que ce n'est pas un danger mortel d'avoir des défauts de prononciation. Mais je peux vous l'affirmer, il n'y a rien de plus périlleux que d'être un enfant qui bégaye et qui zozote. Donc tout le roman a ce ton. Et en vérité, ce ton pour nous faire passer toute la difficulté de vivre des Indiens. Donc finalement, il s'en sort. Il va en classe avec les autres Indiens. Il a un super ami, Rondi, avec lequel il fait tout ce qu'on peut faire quand on a un ami très très proche. Et puis, cette survie, il la sent vraiment comme une survie, parce que finalement, quand même, vu son physique, vu sa façon de parler, on se moque de lui énormément. Et il se dit que pour sortir de tout cela, la seule solution, c'est quand il va quitter le collège, d'aller au lycée français. Il sera un des rares Indiens à y aller. Mais aller au lycée français, ça va aussi lui faire quitter sa tribu, être rejeté des siens et particulièrement de son meilleur ami et avoir beaucoup de mal à se faire accepter au lycée français. On y découvre, comme dans le roman précédent, que l'alcoolisme est en permanence présent, que lui aussi va perdre sa sœur à cause de l'alcoolisme. Elle va s'endormir et brûler dans sa caravane et ne pas se réveiller parce qu'elle était trop ivre. Donc, tout le roman tourne aussi autour de cette condition de vie des Indiens, mais c'est écrit avec ce ton, cet humour qui nous fait sourire malgré les conditions de vie. Donc il finira par se faire accepter du lycée français, être reconnu aussi pour un jeune futur adulte finalement compétent. Il a des possibilités malgré ce qu'a subi son cerveau et il va pouvoir suivre sans problème l'éducation des Blancs. Si ce n'est que dans ce lycée, on n'y met pas non plus, puisqu'il est très proche de la réserve, les meilleurs professeurs. Faut pas rêver. Donc Sherman Alexis, alors on nous dit que c'est en particulier autobiographique. J'espère qu'il a quand même pas eu en permanence cette vie, mais il est lui-même donc de père et de mère indienne. Donc un roman qui ne prend aucune ride. Nous, à la librairie, on l'a en permanence et on le conseille régulièrement. Un petit roman pour les plus jeunes, « L'Indien qui ne savait pas courir » de Lé Soerwen, illustré par Urs Landy. Un petit roman chez Bayard qui est paru il y a longtemps et qui nous conte une vision plus facile des Indiens tels que les gamins la rêvent un petit peu. Donc ce petit garçon naît avec une jambe qui marche mal, il est rachitique, il n'est pas comme les autres. Et un Indien qui boite, il ne peut pas devenir un guerrier comme les autres. Pour lui, la vie est particulièrement difficile, même si chez lui, il est accepté, il n'y a pas de souci. Mais finalement, on lui confie les charges qui sont habituellement données aux filles. Mais pour survivre, il est complètement à l'écoute de la nature. Et cette écoute de la nature va lui permettre d'être presque adopté par un cheval. Et grâce à ce cheval, grâce à cet amour de la nature qu'il a eu, il pourra rentrer chez lui sur les quatre pattes du cheval et pouvoir à nouveau être un garçon presque comme les autres. Et ce jour-là, son père lui donnera son nouveau nom qui sera Utché, qui revient à cheval. Les illustrations sont magnifiques à lire, à regarder. Et je crois que je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à très bientôt, dans 15 jours, et ce sera Gwen qui présentera l'émission. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.